Réfléchir un petit peu si vous voulez sur ce sujet. Alors en fait c'est un passage dans Michelet qui résume un petit peu le sujet, après on va essayer de développer. C'est marqué là-bas, Al-Sadé Ish'atsel Abarti. Sur le champ d'un paresseux je suis passé, Ve'al-Kerem Adam Chaserlev. Et sur la vigne d'un homme Chaserlev qui manquait de cœur. Donc déjà, Shlomo HaMelech il compare Atzel, le paresseux, avec quelqu'un qui est chaserlev, qui manque du cœur. On ne voit pas tellement le lien. Après, c'est marqué Ve'ine ala kulo kimshunim. Et voici, il était rempli d'épines. Après, c'est marqué Chasu panav charulim. Il était rempli de ronces. Ve'geder avanav ne'ersa. Et la barrière de pierre, elle est cassée. Autour du champ, la barrière, elle est cassée. Ve'echezé. Après, c'est marqué J'ai contemplé. Ve'echezé anochi. Achit Libi, j'ai mis mon cœur, j'ai mis porté mon attention. Raïti, j'ai vu, Velakarti Moussa. Et j'ai tiré un enseignement. Que quoi? Menat Shena, mais Atenumot, il faut limiter le sommeil, limiter l'endormissement. Mais At Tribouk Lishkar, il faut éviter trop de se coller au lit, au sommeil. Bon, ça parle de quelqu'un qui doit faire des efforts. Alors de quoi, qu'est-ce qu'on a ici? Quel rapport on a demandé entre Ish Atzel et Chaser Lev. Quelqu'un il est paresseux, il manque de cœur. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un il est paresseux. Ah, c'est physique, ouais. Manque de motivation. Mais Chaser Lev, nous on a expliqué déjà plusieurs fois que le cœur, c'est en vérité, c'est la personne elle-même. Toute l'intériorité de la personne. En vérité, une personne, c'est comme un gros cœur avec une fine peau tout autour. Parce que la Torah, elle ne parle pas du membre qui envoie du sang dans le corps. Elle parle que l'essence de la personne à l'intérieur. Comme s'il y a un corps physique, et un corps psychologique, ou un corps spirituel. Et dessus, il y a une fine peau. Maintenant, quand quelqu'un, le cœur de la personne, il est réel, il est concret, ça veut dire que son intériorité, son extériorité, ils sont les mêmes. Alors ça s'appelle le cœur de la personne. Et c'est de là que tout provient. Donc quand quelqu'un, il est chasser lève, c'est pas qu'il manque de cœur, c'est qu'il manque d'intériorité, il manque de construction personnelle, il manque de structure psychologique, il manque de squelette intellectuel, il n'est pas construit. Après, c'est marqué, le champ, il était rempli de ronces. Il est rempli d'épines. Vous savez qu'il y a un phénomène extraordinaire. Il n'existe pas dans le monde des gens qui sont devenus planteurs de mauvaises herbes. Ça n'existe pas. Pourquoi? Ça pousse tout seul. Alors, ça, c'est une question qu'il faut demander aux scientifiques. Si le monde, il s'est fait tout seul, comment ça se fait que le mal, ça pousse tout seul, et le bon, ça ne pousse pas tout seul? C'est rare que tu arrives en plein milieu d'une forêt et tu trouves un champ de blé sauvage. Y a pas. Ouais. Par contre, les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Tout ce qui est mauvais, ça vient tout seul. Et ça vient de quoi? D'un manque de travail. Donc ici, c'est marqué. Le champ, c'est la personne elle-même. Il est rempli de ronces. Il est rempli d'épines. C'est quoi l'épine? Les épines, c'est quoi les ronces? Les ronces, c'est ce qui pique à l'intérieur. C'est les remords, c'est les angoisses, c'est les regrets, c'est la bêtise, c'est la lourdeur, c'est l'entêtement. Tout ce qui est négatif, tout ce qui bloque, comme quand tu vas avancer dans la forêt, tu peux pas. Il y a des ronces, ça t'arrache, ça te pique. Alors quelqu'un, inconsciemment, il plante des ronces autour de lui-même. Maintenant, il s'est entêté. Ouais, il a un mauvais caractère. Alors il n'arrive pas à se remettre en cause. Il veut pas comprendre les autres. Il veut pas. En lui, il croit que c'est les autres qui sont méchants, c'est les autres qui sont pas là, que la vie elle est dure, que... Non, mais tu sais, c'est lui qui s'est entouré de ronces. De sa bêtise, de sa méchanceté, de sa lourdeur. Après, c'est marqué que le champ de pierre, le champ qui est autour du champ, le mur qui est autour du champ, il est cassé. Alors, on a déjà cette image, mais il faut la réécouter. Vous savez, vous allez à la campagne, autour du champ, il y a des murs. Des petits murets de pierre pour séparer les champs. Maintenant, ces pierres-là, on ne les a pas amenées de quelque part. D'où est-ce qu'elles viennent?
Du terrain.
Du terrain. C'est que qu'est-ce qu'elle a fait la personne? Elle a dit, on allait acheter un champ. Maintenant, c'était un terrain sauvage. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à labourer, elle est tombée sur une pierre. Elle a pris la pierre, elle l'a mis de côté. Elle a labouré encore une pierre, encore une pierre, encore une pierre. Mais il y a des centaines de pierres. Parce que chaque génération qui laboure, trouve une pierre. Alors, au début, on trouve les grosses pierres. Après, on trouve des pierres moyennes. Après, on trouve des petites pierres. Avec ces pierres, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un mur. C'est quoi le champ? On a dit, c'est la personne. Quand quelqu'un, il travaille sur lui-même, il trouve en lui du bon, il trouve du mauvais. Le mauvais, qu'est-ce qu'il fait? Il le met de côté. Quand il le met de côté, il arrive à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Cette capacité de connaître le mauvais, ça s'appelle un mur de protection. Ça s'appelle la dignité. Ça s'appelle le respect que la personne a d'elle-même. Quand quelqu'un il est mélangé à l'intérieur de lui-même, que le bon et le mauvais ils sont mélangés, pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le courage ou la force, ou alors la volonté de régler ce problème. Automatiquement, ça s'appelle que le guéder, il est néheras. La barrière de pierre, elle est cassée. Des gens qui n'ont pas de respect d'eux-mêmes, qui n'ont pas de dignité, tu les traites, tu les casses, tu les insultes, ça ne les dérange pas. Alors ils croient, parce qu'ils s'en fichent. Non, en vérité, parce que le travail n'a pas été fait. C'est pas possible, tu peux pas te marcher sur le pied, marcher sur la tête, et tu dis rien. Sauf si effectivement tu as un terrain abandonné. Maintenant le premier qui l'a abandonné ce terrain, c'est toi. Mais si c'est un terrain qui est travaillé, oui, c'est ta femme, c'est ta famille, tu peux pas supporter. C'est ton travail, tu peux pas supporter. Donc comment ça se fait que tu supportes? Parce qu'au fond c'est pas ton travail, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, c'est pas ta famille. Parce qu'il n'y a pas eu de travail. Quand le champ est construit, quand le champ est travaillé, donc automatiquement ça construit. Et plus on va travailler, et plus on va enlever les petites pierres, et plus la terre, elle va être bonne. Elle va être travaillée. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est que, il y a un double travail. Il y a un travail d'enlever le mauvais, qui malheureusement pousse tout le temps, parce que les mauvaises herbes, elles reviennent. On n'a pas besoin de mettre des...
Après, vous allez voir des mauvaises.
J'aurais pu dire condamné à mort. C'est bien. Donc c'est quoi l'idée? En fait, on a commencé un peu à l'avance, puisqu'on a commencé à verser ça. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un, il vient, il réfléchit, il regarde. Alors ici, le pasteur qui vient dire, un homme, il regarde son champ à lui. Pas le champ de l'autre, de regarder le champ de l'autre. Ouais, de dire, oui, il est comme ça. C'est pas intéressant. Et en plus, c'est un temps que tu enlèves au temps que tu regardes ton champ à toi. Donc pour ça que c'est marqué dans le pasouk, « Ve'echeze anochi » J'ai contemplé. Achit Libi, j'ai mis mon cœur, j'ai mis mon attention. Et après, c'est marqué Raïti. Mais je comprends pas. Mais depuis tout à l'heure, il a vu. Parce qu'il a dit qu'il a contemplé. Non, il y a une vision de loin. D'accord? Après, quelqu'un, il porte son attention. Ouais. Et après, il voit. Donc, en réalité, ce qu'on voit, c'est ce sur quoi on porte son attention. Et ça, c'est dans toute la vie. Oui? Il y a des gens, par exemple, ils savent pas se concentrer. Alors, ils voient tout en général. Il y a déjà une autre maladie. Ils se concentrent sur tout. Alors ils deviennent obsessionnels parce qu'ils cherchent chaque détail. Il faut savoir regarder en global. Et ce qui est important, poser les yeux. Maintenant, pourquoi c'est marqué? Quelqu'un, il pose son cœur. Ouais. C'est quoi? Il pose son cœur. Encore une fois, parce que ton intériorité, elle est à l'intérieur, elle est loin. Quand tu la poses sur la chose, elle devient sensible. Elle voit, elle sent la chose. C'est pour ça. Toujours dans le passage que c'est marqué, Vaïssa et Aïnav, Vaïa. Il a levé les yeux et il a vu. Pourquoi quelqu'un ne lève pas les yeux, il ne voit pas? En vérité, c'est comme ça. Combien de fois, dans des situations qui sont complètement bloquées, l'autre, il dit, c'est fini avec cette femme, je ne peux plus. Je dis, qu'est-ce qui va pas? Il dit, elle est comme ça. Je dis, viens avec moi. Viens, allez, viens. Je dis, viens ici, là. Alors, il attend. Ah oui, effectivement. Tu as vu d'un autre angle. Ouais. L'autre, il dit, ma belle-mère, c'est terminé. Je ne peux plus. On a trop souffert. Elle a parlé du mal. Elle m'a détruit. Elle est méchante. Si je te pose une question, tu penses qu'elle ne veut pas être gentille, ou elle peut pas être gentille? Ça, c'est une maladie. Elle a une maladie psychologique. Elle voit le mal, elle est méchante, mais pas d'elle-même. Ah, tu dis, ah, ben si elle est malade, c'est autre chose. Alors, d'un seul coup, la haine, elle est devenue de la pitié. Ouais, la souffrance, elle est devenue de la compréhension. Qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tu n'as rien fait, c'est la même personne. Mais toi, tu as changé d'angle. Un changement d'angle, il change la perception des choses. Combien de fois quelqu'un, il vient, il me raconte toute l'histoire. J'ai écouté toute l'histoire. Oui. Et je dis maintenant, on va reprendre tout à zéro. On va tout reprendre à zéro. Comment on prend à zéro? Mais je t'ai expliqué. Ah, j'ai compris. Mais on va tout reprendre à zéro. Maintenant, on voit d'une autre manière. Et on change tout. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on appelle en français un angle de vue. Un point de vue. C'est ton point de vue. Moi, j'ai mon point de vue. En fait, chacun là où il est placé, il a une vision différente des choses. L'autre il le voit blanc, l'autre il le voit gris, l'autre il le voit crème, l'autre il le voit noir, et pourtant c'est la même chose. Et c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est seulement la manière comment est-ce que la personne elle était capable de poser son cœur dessus. Est-ce qu'on sait se sensibiliser à quelque chose et à ce moment-là on le voit? Oui, un il voit d'une certaine manière parce qu'il a mis son cœur. Comme un objet, comme un médecin, il voit un symptôme. Toi tu vois rien, tu dis qu'est-ce qu'il a? Il est un peu jaune. L'autre il dit monsieur, ça c'est un cancer du foie. J'ai trouvé un petit peu jaune. Et lui, c'est un médecin, il voit. Ouais. Toi, tu es diamantaire. Tu prends comme ça. Tu... Faux. Comment tu dis? Va le vérifier si tu veux. Les yeux, ils sont habitués. Ouais. Ils rentrent dans un immeuble. 637 000 euros 433. Comment tu fais? C'est mon métier. Il sait opposer ses yeux. Il sait mettre les yeux. Quand il met les yeux, il voit. Ce qu'on voit quand on se sensibilise n'a rien à voir avec ce qu'on voit quand on ne se sensibilise pas. C'est ce qui est marqué ici. Il dit quelqu'un, en vérité, il y a la première phase de la paresse, en vérité, c'est une paresse psychologique. C'est que les trois quarts des gens, en vérité, ils détruisent leur vie par paresse. Tu vois cet enfant, hein, par exemple, il fait des efforts effroyables pour ne pas apprendre à lire. Celui-là, il a 45 ans, il fait des efforts incroyables pour ne pas réfléchir. Il veut une télévision idiote, où c'est facile. Il regarde que des films, où il comprend depuis le début. Il prend des livres, il y a des photos. Quand il y a des problèmes avec les enfants, il dit « débrouille-toi avec le docteur ». Ouais. Tu vois qu'est-ce qu'il fait? Il se débrouille en vérité, pas pour ne pas assumer, pour ne pas réfléchir. Il veut que son cerveau il reste au repos. Parce que le repos, ça s'appelle la non-utilisation. C'est comme ça qu'il a compris. Nous, le repos pour nous, c'est quoi? C'est la sérénité. La sérénité, elle vient de la réponse, quand il y a une réponse. Maintenant, celui qui a la réponse, c'est parce qu'il avait le problème de la question. Lui, il dit, pas de question, pas de réponse. La paix, c'est ça la paix. Mais cette paix-là, Rabotai, c'est la réponse des réponses. Ce qu'on appelle la paix éternelle, qu'on souhaite à tous à 120 ans. D'accord?
C'est mais la yoga. Paix. C'est pas yoga, ça.
C'est ça. Mais ça, c'est pas possible de son vivant. Et les gens, ils veulent la paix de leur vivant. D'ailleurs, tu le vois. Dès que tu penses à parler avec eux, mais fiche-moi la paix, fiche-moi la paix. C'est quoi la paix pour eux? Ça veut dire, je veux pas réfléchir. Alors, donc ça s'appelle une flemme intellectuelle. Oui. Il y a aussi une paresse existentielle. Il y a des gens, ils ont la paresse d'exister. Je sens que tu as un grand potentiel. Donne le meilleur de toi-même. Non, oh, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Ça, on ne croit pas. Et ça mène nulle part. Et pourquoi faire? Tu vois, des enfants, des fois, ils ont une paresse existentielle. Ils ont fait des tentatives, on les a cassées. T'es nul, t'es pas capable, ça sert à rien. Le professeur, il a dit va au fond de la classe. Quand il parle, il n'écoute pas. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait. Mais cette paresse-là, elle est basée sur le manque de confiance en soi. Ça, c'est un contrepoids. Oui. Moi, je prends ça, je le porte. Pourquoi je le porte? Eh bien, parce que c'est léger. Non, parce que moi, j'ai confiance que je suis capable de le porter. Mais si je ne veux pas le porter, parce que je pense que je ne peux pas le porter, je ne vais même pas essayer de le porter. Je lui dis, laisse tomber, c'est pas possible. C'est trop lourd. Je ne l'ai même pas porté. Et ça, c'est quoi? C'est pas la réalité qui est difficile. C'est la personne qui est faible. Donc, une espèce de paresse existentielle. De ne pas rentrer dans la réalité, de ne pas assumer, de ne pas aller au fond des choses. Simplement pourquoi? Parce qu'on s'est enfermé à l'intérieur de quelque chose. Alors, nous, on essaie de comprendre comment il fonctionne, cette espèce de carapace, ouais, de cristallisation. De ciment que la personne elle a pris, elle est devenue, qui a fait que maintenant elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus réaliser. Alors c'est marqué dans le passouk. Admatai atzel tishkav. Jusqu'à quand, le paresseux, tu vas dormir? Matai takum mishinatecha. Quand est-ce que tu vas te réveiller de ton sommeil? Dit le gars de Vilna, il ramène sur ça ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Im en ani li mili. Oui, Ve'im lo arshav et matay. Im en anili mili. Im en anili, si moi je ne suis pas pour moi, mili qui est pour moi. Ve'im lo arshav et matay. Et si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Ici il y a deux enseignements extraordinaires. C'est quoi im en anili mili? Normalement on aurait dû dire im en ani ani mi ani. Si moi je ne suis pas moi, qui suis-je? Non, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit « Imen anili », si je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi? Maintenant, ça veut dire quoi quand moi, je suis pour moi? Je peux dire « Moi, je suis pour toi, toi, tu es pour moi. » Mais comment moi, je vais être pour moi? Parce que moi, je suis moi. Je ne peux pas être moi et pour moi. Vous me suivez? Comment je vais m'occuper de moi? Alors, toujours, je donne cet exemple. C'est comme en français. Quand quelqu'un, par exemple, en français, il dit « Je me lève ». Allez, je me lève. Alors le jeu, c'est qui? C'est moi. Et le me, c'est qui? C'est moi. Alors, qui c'est qui lève qui? Je me lève. Qui lève qui? Alors, je te dis, il y a quelqu'un en toi qui veut se lever. Il s'appelle le je. Mais il y a quelqu'un en toi qui ne veut pas se lever. Il s'appelle le me. Quand le me, il est allongé, il dort bien. C'est un bœuf qui dort. C'était un bœuf qui dort. 800 kilos, comme ça. Il ne peut pas se lever. Il faut que le je, il lève le me. Le je qui veut se lever, il lève le me qui ne veut pas se lever. Ouais, le me, il dit, ça ne sert à rien, je vais arrêter le truc. J'irai au troisième ligne, Yann. Ouais, à quoi ça sert? Combien je vais gagner? 100 euros. Je dors. 100, je me paye 100 euros de vacances. Ouais. Il dit, le me, il est lourd. Le jeu, il est léger. C'est le jeu qui lève le me. D'accord? C'est pareil maintenant. Je me prends en main. C'est-à-dire, je. Il y en a un qui veut se prendre en main. Il veut trouver une solution. Et il y a un me qui veut pas. Une victimisation. Ça sert à rien. De toute façon, j'arriverai pas. Personne ne m'aime. Alors, le jeu, il prend le me. Il dit, allez, allez. Hop, on y va. C'est lui qui se prend. C'est une force. Oui? Mais dans le sens inverse aussi, ça existe. Je me sens pas bien. C'est-à-dire que je me donne les moyens de ne pas me sentir bien. Je suis complice de ma souffrance. J'entretiens ma dépression. Je ramasse les éléments autour de moi qui me permettent de rester dans la négation. Pourquoi? Parce que celui qui veut se sortir d'une souffrance, il doit se battre. Oui? Mais il doit surtout arrêter de se battre pour maintenir sa souffrance. Parce que la plus grande complice de ta souffrance, c'est toi. Parce que tu vois le négatif. Ça marchera pas, c'est trop difficile, vous vous rendez pas compte, j'ai tout essayé. Je dis, mais tu parles pour qui maintenant? Tu travailles pour qui? Oui, tu coupes les bras, tu coupes les jambes, tu trouves une chaise roulante, tu tombes dedans, et après tu dis, on va voir qui c'est qui va pousser. Mais personne ne va pousser, tu sais pourquoi? Parce que l'autre aussi, il est sur une chaise roulante. Lui aussi, il attend qu'on le pousse. Et l'autre, il attend qu'on le pousse. Ça, c'est une nature chez l'homme de se mettre en situation où on est obligé de le pousser. Donc, il faut faire le contraire. Oui. Que quelqu'un, il lutte, il lutte, il lutte. Et moi, je vois l'énergie que les gens dépensent pour conserver leur malheur. Des énergies énormes. Pour entretenir leur divorce, pour entretenir leur tête. Les gens méchants font la tête, ils se battent. Mais viens, regarde quelque chose de positif. Essaye de trouver une solution. Il fait beau. Non, il va pleuvoir. Mais si tu es marié depuis 20 ans, ben justement, il est vieux. Oh. Les gens, tu as des enfants, tu as de la chance. Eh ben, j'avais la paix avant. Oula. Chaque chose, il voit noir. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est actif dans la négation.
Ouais.
Donc je dis, si tu peux être actif dans la négation, t'as qu'à être actif dans le positif. Non. Tu vois, on est actif. Oui, dans le mal, et on est passif dans le bien. C'est quoi cette flemme? C'est quoi cette paresse de faire le bien? Cette paresse de faire des efforts, d'améliorer les choses? Ce qui est marqué ici, im en ani li, si moi je ne suis pas pour moi, c'est-à-dire que moi, je dois être en dehors de moi pour m'occuper de moi. C'est moi qui dis à moi, vas-y. Pour ça qu'on dit, il y a le rossé et le merassé. Le rossé, c'est celui qui fait. Le merassé, c'est celui qui fait faire. On dit Gadol a merassé minarossé. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Quand tu fais faire une mitzvah à quelqu'un, ouais, tu as plus de mérite que la personne qui fait la mitzvah elle-même. Le merassé minarossé. Maintenant, toi-même, tu es un merassé aussi de toi-même. Toi, tu es celui qui fait faire à toi-même. C'est-à-dire que quand tu te prends en main, quand toi tu te bats avec toi-même, donc tu es un merassé. Donc la Torah, elle te dit Gadol a merassé minarossé. Il est plus grand. Celui qui trouve la force de se faire faire à lui-même, que celui simplement qui fait. Il dit cette logique-là. C'est ça, im en anili mini. Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui, au fond, peut faire sortir le meilleur de moi. Ah, si quelqu'un dit, mais j'ai eu des bons professeurs, j'ai eu des bons rabbanim, j'ai eu des bons médecins, un bon thérapeute. Mais un bon thérapeute, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui te soigne. C'est quelqu'un qui te montre à toi comment tu peux t'en sortir. Toi. Et il te dit, dans le trou, oui, alors regarde autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Ah, une porte, allez, vas-y, rentre dans la porte. Après, il dit, oui, mais le plafond, il est bas, alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais me baisser. Alors, qui c'est qui s'est baissé? C'est toi. Qui c'est qui a trouvé la porte? C'est toi. Ah, maintenant, il y a des gens qui se prennent au piège de croire que parce qu'ils ont aidé quelqu'un, alors c'est eux qui ont fait la chose. Mais tu n'as rien fait du tout. Un enfant, c'est pareil. Je vous avais raconté cette histoire. Un rave, il a mis ses élèves dans une école. Ses enfants, je veux dire. Il a dit au directeur, je ne vous demande pas de les éduquer. Je vous demande même pas de les améliorer. Mais surtout ne les abîmez pas. cette logique. C'est quelqu'un ici, au fond, que l'enfant, il a tout ce qu'il faut. Il a tout pour réussir, il a tout pour rater. Seulement toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est seulement que tu vas éclairer le terrain, que tu vas donner. Vous savez, c'est un peu comme les... je sais pas comment ça s'appelle là-haut, ce jeu au Canada, là. Ils doivent tirer une grosse boule comme ça.
Gunning.
Ouais. Okay. Et il y a deux types de gens qui vont... Ouais. Toujours, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est le jeu. Tu as le droit de nettoyer pour que ça aille le plus loin possible. Ça va? Eh bien, nous, les parents, c'est tout ce qu'on fait. Nous, on nettoie pour que l'enfant, il aille le plus loin possible. Mais c'est lui qui croit qu'il l'a envoyé loin. Vous avez compris? Tu lui mets la bonne école, les bons amis, tu lui mets la bonne ambiance, tu lui mets de l'amour, tu lui mets de la... Tu peux aussi lui mettre les nerfs, les insultes, le casser, le détruire, le... Tu peux. Après, tu dis, il n'a pas été loin. C'est ça qu'on fait. Ouais. Et cette logique-là, tu peux la faire avec toi-même. C'est que quand tu t'écoutes parler toi-même, et tu dis, mais en fin de compte, je suis le pire ennemi de mon évolution personnelle. C'est moi-même qui entretiens ma destruction. C'est moi-même qui m'empêche de faire des choses. Ouais. C'est-à-dire toujours de demander la question que les Chachamim lui posent. Que quand quelqu'un il doit faire quelque chose, il doit réfléchir. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me coûte? Oui, peut-être que moi-même, je suis en train... Si je m'écoute parler, je dis, mais je travaille pour qui, là? Des fois, je reçois des couples. D'accord? C'est très rare, bon, Hachem, parce que maintenant, il n'y a plus de couples qui ont des problèmes. Mais quand il en reste un de temps en temps, alors j'entends les gens parler. Alors maintenant, on a parlé pendant 3 heures, on a expliqué, on a travaillé. Ils sont super. Ah, je t'adore. Mais il y a un petit mot qui va sortir. Je sais, moi. Ouais, un petit mot. Par exemple, tu dis quelque chose au mari, la femme, elle dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter? Ça veut dire, mon mari est un brel, il faut répéter. Oui. Alors, je dis, pourquoi il n'a pas entendu? Vous avez entendu, vous? Oui. C'est pareil. Alors, je dis, est-ce que vous êtes d'accord de vous engager à faire un travail? Alors, le mari dit à la femme, tu as entendu ce qu'il a dit? Vraiment, tu t'engages? La femme, elle dit, mais j'ai dit oui, déjà. Ça veut dire que je m'engage. Maintenant, ce mot-là, là, est-ce que tu t'engages? Est-ce que tu as bien écouté? Ce mot-là, il ne sert à rien. Si, il sert à une chose. Il sert à faire le balagan. Parce que toi, tu te dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Tu dis, il sert à rien, il t'a fait parler. C'est même pas toi qui as parlé. Parce que si toi, tu réfléchis, tu dis, mais jamais je vais dire un truc pareil, pourquoi je le dis? Ça sert à rien. C'est ces mots-là, où tu n'es pas dans la maîtrise, qui sortent et qui détruisent. Oui. Il dit, maintenant, quelqu'un, il est capable de le faire, comme avec l'autre. Il est capable de dire, ah, tu vois ça, ce mot-là, il était en trop. Oui. Est-ce que l'homme, il peut le faire avec lui-même, de dire, tu vois, ce mot-là, il est en trop, ce geste-là, il est en trop, qu'est-ce que ça m'apporte, quelle direction ça prend? Je suis en train de parler de quoi, là, maintenant? Oui, ça ne marchera pas, c'est trop difficile, à quoi ça sert, où c'est marqué? Mais je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'argumenter quoi? Qui? Oui? Donc c'est ça, et c'est ça qui est le paradoxe. Oui? Encore une fois, qu'en fin de compte, on dépense une énergie énorme pour justifier notre paresse. On dépense de l'énergie pour justifier la paresse. C'est comme par exemple quand on mange beaucoup. Est-ce que vous savez pourquoi on est fatigué? Vous savez pas pourquoi? Parce que la digestion, ça fatigue. D'accord? Maintenant, on mange tellement, qu'on est obligé d'utiliser une grande partie de la nourriture pour la fatigue qui est engendrée par la digestion. C'est-à-dire que si on mangeait moins, on serait moins fatigué. Puisque ce qui nous fatigue, c'est de manger. Parce que pour digérer, ça demande de l'énergie. La preuve, des fois tu manges pas, et t'es bien. T'as l'esprit plus clair. Tu n'es pas mort. Si tu as sauté un repas, il te reste à peu près encore 20 jours de réserve. Ouais. Tu vas pas mourir. C'est rien culturel qu'il est midi, on doit manger. Ou c'est une occupation, ou c'est un rite. Asseyez-vous, mais j'ai pas faim. C'est juste pour manger. D'accord. Mais j'ai pas faim. D'accord. Alors tu gardes les souvenirs sur les hanches. D'accord. Mais en vérité, j'ai pas faim. Et c'est exactement pareil maintenant. Alors je réfléchis. Quelle différence entre je réfléchis à ce que je mets dans ma bouche, je réfléchis à ce qui sort de ma bouche, je réfléchis à ce qui rentre dans ma vie, je réfléchis à ce qui rentre dans mon couple. Et ça sert à quoi? Ça. Cette réaction-là, cette attitude-là, cette tronche-là, elle sert à quoi? C'est moi qui peux décider de ça. Puisque je suis en train de fabriquer, de créer mon terrain. Je suis en train de travailler mon champ. Ouais. C'est comme si quelqu'un, tous les jours, il t'amène des poubelles. Tu peux les mettre là. Le premier jour, t'as honte. Bah écoute, pose-les là. Le deuxième jour, il vient et dit, excuse, tu peux les garder? Oh, c'est mon champ, tu mets les poubelles. Va. Oui, mais tu comprends, elle est loin, la décharge. Alors j'ai pensé, je te les pose là, blindé d'air, un jour, je vais enlever tout. Personne ne peut accepter ça. Oui ou non? D'accord. Alors toi, quand c'est toi qui mets les poubelles chez toi, toi, tu mets les poubelles chez toi. Comprenez ou non? T'as eu un problème avec le professeur? Tu gardes la rancune. T'as eu une vexation avec ton père? Tu gardes les nerfs. T'as eu une engueule avec ta femme? Tu dis, tiens, il ne faut pas que je l'oublie, comme ça je vais lui faire payer grave. Elle m'a dit non. Je lui dirai non. Mais toutes ces poubelles que tu gardes, elles vont pourrir. Ça putréfie. Ça détruit. Mais c'est ça qui tue les gens. Les gens gardent des poubelles. En eux-mêmes. Ils ne savent pas éliminer. Je disais, quand tu as un problème avec quelqu'un, ou tu en parles, ou tu fixes une date pour en parler, ou tu décides que tu n'en parleras plus parce qu'il n'y a pas de problème. Décide. Ah, j'ai dit non, non, non. Je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien. Mais. On n'est pas dans le genre à faire des scandales, nous. On préfère tomber malade. Comme ça, pour te punir, je vais tomber malade. Et quand tu me verras en train de mourir, je me dirai, mon amour, mon cœur, je te dirai, chérie, dis oui, oui, mon cœur, oui. Et c'est à cause de toi. Comme ça, elle meurt, comme ça, elle dit. Moi, je vais être soulagé, et lui, pendant 23 ans, il va crever avec la rhumma qui m'a tué. C'est que l'autre, il est prêt à mourir pour se venger. Il y en a qui sont prêts à tomber malades pour qu'on s'occupe d'eux. Il y en a qui sont prêts à tomber malades pour qu'on les aime. Mais ça va pas, ta tête. Mais on t'aime, on t'aime. On t'aime pas plus parce que t'es malade. Peut-être on va avoir de la pitié ou de la peine, mais on t'aime pas plus. Genre tellement je veux qu'on s'occupe de moi que je vais trouver des solutions. Un enfant, ne croyez pas qu'un enfant il fait des bêtises parce qu'il est bête. Un enfant il fait des bêtises parce qu'il veut qu'on s'occupe de lui. Facile à comprendre. Mais ça va, mais à 35 ans ça devient compliqué. Alors je te dis, tes parents c'est quoi? C'est un miroir. Ta famille c'est un miroir. Ta femme c'est un miroir. Ton mari c'est un miroir. Mais qu'est-ce que tu vois dans le miroir toi? Donc tu veux que quelqu'un s'occupe de toi? Tu me dis oui. Eh ben occupe-toi de toi. C'est génial pour ça. Parce que les gens, ils cherchent des gens qui s'occupent d'eux. Il y en a même qui les épousent. Ma prière rentre dans une logique de dépendance et de déception. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tout le temps que tu demandes à l'autre de s'occuper de toi, mais lui, entre-temps, il a besoin de s'occuper de lui. Après, tu lui dis, occupe-toi de moi et n'oublie pas de t'occuper de toi. Il dit, je suis comme pareil. C'est pour ça que la logique, c'est qu'il faut ne rien attendre de personne. Rien. Zéro.
Ouais. T'es juste soi-même.
Zéro. Et tout ce que l'autre va te donner, il faut le prendre en plus. C'est un plus. Mais si tu fais le contraire, tu dis, moi, de moi, je n'ai rien. Je suis handicapé total. Oui. Et je suis en attente. Alors cette attente, elle devient ensuite de l'exigence. Cette exigence, elle devient de la déception. Parce que quand tu exiges, tu n'as même plus besoin d'obtenir, tu as besoin d'exiger. Celui qui exige, mais pas pour obtenir, il est automatiquement aigri, puisqu'il n'a pas besoin qu'on lui donne, il a besoin de pouvoir exiger. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça s'appelle des gens embêtants. Il y a des gens comme ça. Il dit, ah, quand tu donnes, il dit, mais c'est rien. Oh, tu redonnes, il dit, c'est rien. En réalité, il ne veut pas quelque chose. Il veut que tu sois au service, il veut que tu sois en attente. Comme l'enfant, pendant tout le Shabbat, il dit, je veux le ballon. Tout le Shabbat, du vendredi soir jusqu'à samedi soir, je veux un ballon. Je veux le ballon. C'est Shabbat. On ne peut pas acheter le ballon. C'est à son d'acheter le ballon. Il fait des crises de ballon. Samedi soir, comme un malade mental, Shabbat, il sort à 23h02, à 23h03, Flash Gordon, tu as été au magasin, tu as acheté le ballon. Il regarde même pas le ballon. Il s'en fiche complètement. Je comprends pas, tu m'as saoulé pendant 24 heures pour le ballon. Il veut pas le ballon. Il veut que tu sois devant lui en train de lui dire, je vais t'amener le ballon. Il veut la disponibilité. Il veut que tu existes pour lui. Encore une fois, un enfant de 8 ans, c'est pas très grave. Mais 38 ans.
Un peu grave.
Ça devient difficile. Après, des fois, c'est les parents qui deviennent comme ça. Oui, de l'enfant, enfant, il est devenu l'enfant parent. Pourquoi tu m'appelles pas? Pourquoi tu m'appelles pas? Pourquoi tu t'occupes pas de moi? Maman, on est toute la journée ensemble. Mais quand je suis rentré à la maison, tu m'as pas appelé. On était toute la journée ensemble. De 9h du matin à 11h du soir, on était ensemble. Je suis arrivé à 11h10, j'ai fait, allô? Je
t'ai laissé 4 messages. Mais maman, j'étais dans l'ascenseur. Et ouais, combien il dure l'ascenseur? Tu sais bien que j'ai peur. Faut que tu m'appelles. C'est quoi cette logique? On n'en veut pas, on les aime, c'est notre famille. Oui. Moi, toutes les exigences que je donne des autres, encore une fois, c'est pour que la personne, elle les applique avec elle-même. Parce que l'autre, encore une fois, c'est qu'un miroir. Tu ne vas pas t'engueuler avec un miroir. T'engueuler avec un miroir. Ouais. Donc tu regardes le reflet, tu dis c'est marrant quand même que j'ai besoin comme ça tout le temps, tout le temps. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un sur qui gueuler, ils ont besoin de quelqu'un qui les complimente, quelqu'un qui les encourage, quelqu'un qui les pousse, quelqu'un qui les... Alors eux, ils sont où alors? Im en anili mili. Ouais. Parce qu'à la fin, tu vas dire j'ai fait des grandes études. Tu n'as pas la valeur de tes études puisque tes parents t'ont poussé pendant 17 ans. Oh, là, 30 ans. Ouais. Mais j'ai fait du commerce. Ah, d'accord, mais comment tu as eu la paix pour faire le commerce? Ah, bah, parce que ma femme, elle s'occupait de la famille. Donc c'est elle qui a le mérite du commerce, pas toi. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Ah, tu dis, mais j'ai fait ça. Donc chaque chose, en fin de compte, si tu n'es pas la cause première, tu ne peux pas avoir le mérite de la chose. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est que quelqu'un, il doit trouver en lui-même les ressources. Tu dis, mais comment on peut avoir les ressources de tout? Alors je te dis, intellectuellement, ça se comprend. Après, on va voir si... Mentalement, ça se comprend, et après, psychologiquement aussi, ça se comprend. C'est quoi? C'est que, on dit, le degré d'accessibilité à la question, il est le même que la réponse. Quand quelqu'un, philosophiquement, il a une question, ouais, ça veut dire qu'il peut avoir accès à la réponse. Ça va? Maintenant, si quelqu'un, il a entendu une question, si quelqu'un, il croit qu'il a une question, c'est pas une question. Quelqu'un qui a la question, il a la réponse. Parce que c'est un bâton. Ouais, le bâton il est enfoncé dans un feuillage. Tu vois un bâton, il est coupé, ça se voit qu'il est coupé. Alors tu dis, dis-moi ce bâton, à ton avis, hein, question philosophique. Ce bâton là, il sort du feuillage sur 30 cm. De l'autre côté, est-ce que tu penses qu'il est infini? Tu dis mais non. Comme il est coupé d'un côté, il doit être fini de l'autre côté aussi. Ouais. Maintenant, comment je tiens le bâton d'un côté? L'autre côté, il va avec le premier côté. Oui, c'est que comment je peux trouver une question? C'est que je peux entendre la réponse. Après, le problème, c'est quoi? C'est est-ce que moi, je suis capable de me débarrasser du complexe de la question qui m'empêche de comprendre qu'il y a une réponse? Ça va?
Non.
Non? C'est quasiment. Quand j'ai une question, le problème, c'est que la connotation psychologique de la question n'est pas la même que la réponse. Donc quand moi j'ai une réponse, c'est un soulagement. Mais quand j'ai une question, c'est une problématique. Maintenant, si moi je garde la question et que j'ai le complexe de la question, donc j'arrive pas à écouter la réponse. Parce que je dis, mais alors je comprends rien, mais alors je suis bête, non, alors je suis nul. Mais si moi je dis, non, il y a des questions, il y a des réponses dans la vie, c'est pas grave. Donc je peux accepter la question parce que j'ai pas de malaise de la question. Quand j'ai pas le malaise de la question, j'ai pas le complexe de la question, alors je peux entendre la réponse. Ça va? Il y a des gens, non. Tu vois, des gens, ils ont une question pendant 10 ans, 20 ans. Ils traînent avec ça. Ils vont voir tous les rabbins du monde. Ils vont voir tous les traînoïdes. Ils vont voir. Ils cherchent des... Vous savez, j'ai une question, monsieur le rabbin, j'ai une question. Moi, je demande. Je dis, mais la question que vous avez, c'est bien, c'est une question. Mais vous n'avez jamais demandé pourquoi vous avez cette question. Et ils disent, mais non, j'ai une question. Mais, t'as déjà vu un arbre qui pousse dans l'air? Il y avait un terrain. Si vous êtes sur la mer et vous voyez un arbre... Sens possible, en plein milieu du Pacifique. Il doit y avoir une île. Donc il y a un terrain. Donc je cherche la question qui a engendré la question. Je cherche le terrain qui engendre la question. Donc c'est pareil ici. À l'intérieur de la personne, il y a un terrain. C'est ce terrain-là qu'il faut travailler. Quand tu as travaillé le terrain, il n'y a plus de question. Quel est le problème? Il dit ça, c'est pareil. Il dit, pour ça qu'il a dit, il dit, Ad matai atzel tishkav, jusqu'à quand tu vas dormir? Oui. Et après, takum mishinatecha. Tishkav, c'est physique. Mishina, c'est psychologique. Ouais, le sommeil, c'est pas quelque chose de physique. Quand quelqu'un dort, c'est pas physique. Ouais. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui dorment avec les yeux ouverts. Tu vois que le business, il coule. Laisse tomber, arrête de mettre l'argent. Alors, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Les gens disent, mais tu dors ou quoi? Tout le monde sait que ton fils, il est en train de mal tourner. Il n'y a que toi qui ne le vois pas. Mais tu dors, quoi. Mais tu ne vois pas que ta femme, quand tu reçois ton copain, elle s'habille super classe. Et quand tu rentres à la maison, elle est une chaîne 9-2.
Tu ne te poses pas des questions?
Non, mais tu ne vois pas les regards qu'ils ont entre les deux? Tu ne vois pas comment il lui arrange son manteau? Bonne soirée. Tu vois rien. Il dort.
Mais ça, c'est quoi l'idée?
C'est ça. Takumishinatecha. Ouais. Créer une forme d'ensommeillement comme ça. Un ensommeillement. Ça s'appelle les habitudes. Ça s'appelle la lourdeur. On a dit ça s'appelle le refus de réfléchir. Ça, il faut faire le contraire. Alors, comment tu le fais? Parce que deux actions. Une action qui est dans l'acte, une action qui est dans le temps. Une action qui est dans l'acte, c'est, on a dit, im en anili mili. Et l'action qui est dans le temps, c'est quoi? Ve im lo arshav et matay. Im lo arshav, si c'est pas maintenant, quand? Il n'y a pas écrit, si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas dans 10 ans, c'est arshav. Ouais. Arshav. Ça veut dire quoi arshav? C'est quoi arshav? C'est quand arshav? Non, c'était, ça s'est passé déjà. C'est tout le temps arshav. C'est maintenant. Tout le temps, maintenant, maintenant, maintenant. Ouais, en anglais, on dit no. En ashkenaz, on dit nous. Nous, nous. No, no. Ouais. C'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, c'est pareil. Et maintenant, est-ce que quelqu'un il est capable de faire ça? Bon, tu sais que t'as tort. Va t'excuser. Non, qui a dit? Pourquoi? À quoi ça sert? Toujours ma faute, toujours. Comme tu veux. Ouais, l'enfant, il est là. Va lui parler. Ah, il comprend pas. Explique-lui. Ouais. Hier, j'ai fait 1000 km en voiture. 1000 km en voiture. Après, je suis rentré et je devais aller faire un cours. J'étais faire le cours. Après, je suis revenu, j'étais naze. J'avais des jambes qui tremblaient comme ça de fatigue. J'arrive à la maison, j'ai pas mangé encore. J'ai fait 1000 km en voiture et j'ai fait un cours devant 500 femmes. Et maintenant, j'ai mon fils qui est devant la Guémara. Je vois, il comprend pas. Il m'a dit, papa, on peut faire. Je dis, on fait. J'ai combien tu as, mon fils? Un daf. Deux pages. Et des belles, comme ouais. Ça, c'est ça comme, c'est des marques ça comme, ouais. Et il me parle, et je voyais mes yeux qui se fermaient. Je dis, il faut que je le fasse. Parce que si lui, il va dire, de toute façon, si mon fils, mon père, il s'en fiche. Qu'elle va à mort, que moi, je vais m'en fiche. D'accord? Et après, tu dis, je vais aller me reposer. Tu dis, tu vas trouver la force. Déjà, tu rentres des 1000 km en voiture. Tu dis, je vais pas faire court, tu crèves tous. Non, tu vas. Tu vas avec l'envie de vomir. Les jambes comme ça, qui tremblent comme ça. Ouais. T'es fatigué, tu peux plus. Ouais. Tu fais le cours. Après, tu sors. Une femme, elle m'a demandé, je peux vous parler? Je dis, je peux pas parler, madame. Je ne peux pas. Je vais tomber maintenant. Ils me croient pas, les gens. Je vais m'évanouir maintenant. Je peux pas. Faut que je rentre chez moi. Je rentre, je veux voir mon fils. Je peux pas me marier maintenant. Il faut que je le fasse quand même. Tu dis, dis-moi, au moins on trouve les ressources. Tout le monde est comme ça. C'est pas moi. Chacun, des fois, t'es épuisé. Il faut aller au travail. Après, il faut assumer tes enfants. Après, c'est normal. D'où elles sortent ces ressources-là? Tu es au bout, il y a encore. Tu es au bout, il y a encore. Tu es au bout, il y a encore. Ça ne termine jamais. C'est pas possible. Quand on a fini de préparer les 3 jours de fête, ouais, et qu'on commencera la moed, mais il faut commencer à préparer déjà les 3 jours de fête. Vous connaissez ça, oui? C'est que la nuit, tu es plus. En dormant, tu es plus. Tu es plus l'oreiller, tu es plus les couvertures. Tu vois tu vois partout, tu vois des rôtis, tu vois des poulets. Tu vois des plats, tu vois des invités. C'est impossible. Et cette logique, c'est quoi? C'est que quelqu'un, il comprend qu'en vérité, les ressources, elles sont infinies. Le problème, c'est qu'il faut aller les puiser. Maintenant, de puiser, chez certaines personnes, ça épuise. Ça épuise de puiser. Tu dis, va épuiser. Je suis épuisé. Tu es déjà épuisé, alors va puiser. Je ne peux pas épuiser puisque je suis épuisé. C'est ça que souvent je vous ai dit, c'est cette blague. Et ce n'est pas une blague. En hébreu, gibor, ça veut dire fort. Ouais. Mais gibor, ce n'est pas la force du bœuf. Ce n'est pas la force du rhinocéros. Ce n'est pas la force de la locomotive. Gibor, c'est guéver. Guéver, un homme. Un homme, il doit être guéver. Quand tu es guéver, tu es gibor. Ouais. Maintenant, gibor, en hébreu, c'est fort. Le mot fort, alors j'ai fait un jeu de mots avec le mot fort. Ouais. C'est quoi? C'est qu'on te demande de faire effort. Effort, c'est quoi effort? Effort, c'est effort. E-S-T, fort. Effort. tu es fort. Pas tu, EST, fort. Tu es fort. Quand toi, le tu et l'effort, ils sont ensemble, c'est pas un effort. Parce que pour toi, c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce que tu es fort. Mais si tu écris en trois mots, tu dis je, tu sais qui je suis, moi, tu sais le je et ses limites et ses capacités et ses possibilités, suis, faut déjà que je m'engage dans la réalité, que je me réalise, que je me donne les moyens, fort, alors comment je vais faire? C'est trop! Et non, le cheval, un cheval, un rhinocéros,
ouais.
Il est fort. Vous croyez que le rhinocéros, il dit, hé, je suis fort? Non, il est fort. C'est un rhinocéros, il est fort. Vous comprenez ou non? Donc maintenant, quand toi, tu es fort, ça ne te coûte pas d'effort d'être fort, puisque tu es fort. Maintenant, le contraire de tu es fort, c'est l'effort tue. L'effort tue. Oui, l'effort tue. Il y a des gens, je te dis, tu leur demandes un effort, ils te disent, tu m'as tué. Ne me demande-moi tout, mais ne me demande pas d'effort. Des fois, une fois, un type, je me rappelle, il est venu prendre Shalom Bayit, il est rentré avec sa femme, à peine ils ont passé la porte. Il me dit, je vous préviens, monsieur le rabbin. Elle m'a mis la pression, elle m'a obligé à venir. Mais ne me demandez pas de faire d'effort. Je lui dis, mais alors, baba, allons-toi, je vais réciter le Kaddish. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est ça. La vie, c'est l'effort. D'accord? Maintenant, pour quelqu'un de vivant, de faire un effort, c'est pas fatigant. Parce que c'est ça la vie. Par contre, pour quelqu'un qui est mort, de faire un effort, c'est très dur. Quelqu'un qui est mort, ouais. Alors, allez-nous, quelqu'un, il a une jambe morte. Ça existe des fois. Ouais. Alors, il faut qu'il traîne cette jambe. Maintenant, imagine-lui, c'est tout son corps qui est mort. Comment il traîne? Il traîne quoi? L'autre, c'est son image de sa femme qui est morte. Alors, il faut qu'il traîne sa femme. Allez, on va aller jusqu'au divorce. On va aller jusqu'au mariage des enfants. Pourquoi c'est lourd? Parce qu'il a tué l'image. C'est lui qui l'a rendu lourd. Parce qu'il l'a tué. Donc, ça devient un effort. Parce qu'il a tué. Quand il y a de la vie, il n'y a pas d'effort. Quand il y a de la mort, il y a l'effort. Donc, quand quelqu'un te dit, je me tue à t'expliquer, ça n'a pas de sens. Parce que tes enfants, c'est normal que tu leur expliques. Sinon, il ne fallait pas faire des enfants. Il fallait adopter un chien. Le chien, tu ne vas pas lui expliquer. Bien que je vois des gens qui prennent du temps pour expliquer à leur chien.
Oh, oh. Donc, j'ai un chien, je ne lui parle pas. Et les voisins m'en parlent.
Donc, c'est quoi l'idée? Vous êtes un guilgoul. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle comprend que quand ça te coûte de faire un effort, la question, elle n'est pas que la situation est difficile. C'est que toi, tu n'es pas adapté à la situation. Mais c'est normal, tu as 20 ans, on va te proposer certains efforts. Tu as 30 ans, il y a d'autres. Tu as 40 ans, il y a d'autres. Il y a 60 ans, il y a d'autres. C'est adapté. C'est comme la musculation. Ça fait 10 ans que tu lèves 10 kilos. Tu vas prendre 12 kilos. Ah, pourquoi? J'ai pris l'habitude de 10 kilos. Ta femme, elle a changé. Il faut évoluer avec elle. Ton mari, il a changé. Il faut évoluer. Les enfants, ils ont grandi. Il faut évoluer. Ah, tu me demandes toujours des efforts. Mais d'évoluer, c'est pas un effort. Sauf si tu as décidé de mourir de ton vivant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il comprend qu'il y a une tendance naturelle chez l'homme à s'allonger. Ouais, quand est-ce que je vais aller dormir? Quand est-ce que je vais me reposer? C'est quand les vacances? Il y en a le 1er septembre, ils attendent le 1er août. Il y en a le matin, ils attendent le soir. Il y en a le lundi, ils attendent le vendredi. Les rabotailles, c'est les vacances qui fatiguent, c'est pas le travail. D'accord? La preuve, c'est qu'après les vacances, c'est dur d'aller travailler. Donc c'est les vacances qui fatiguent. Maintenant, si toi tu penses aux vacances depuis le début de l'année, puisque les vacances fatiguent, donc tu es fatigué depuis le début de l'année, tu dis, il faut aller au travail. Vous savez qu'il va au compte de la mort. Mais je comprends pas. Mais, si tu n'aimes pas ton travail, change de travail. Oui, mais je comprenais, je suis obligé de travailler. Mais quand tu as accepté que tu es obligé de travailler, tu n'es plus obligé de travailler parce que tu as accepté que tu dois travailler. Non, il travaille, mais il est obligé. comprenez ou non? Il est marié, mais il est obligé. Il a fait des enfants, mais il est obligé. Mais c'est l'obligé qui fatigue, c'est pas le travail. C'est la amma que tu mets dans ton travail. La amma que tu mets dans ton couple. Mais c'est le même, de toute façon tu vas le faire. Comment c'est compliqué? Bon, écoute. Bon, il est obligé, hein. On doit passer deux heures ensemble. Alors, je vais supporter ta gueule. Ah ben, on va. Mais c'est toi qui m'as invité. Je comprends pas, tu m'invites. Et tu fais la gueule. Mais ne m'invite pas. Mais là, tu l'as pas invité, tu l'as épousé. Comment tu vas faire? 30 ans. 30 ans. Tous les matins. Encore elle. Toutes les nuits, tu dis, il va y avoir un miracle. Donne-moi, il y aura quelqu'un d'autre. C'est la même. Oui. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que quelqu'un en vérité, ouais, il comprend que le premier antidote de la paresse, en fin de compte c'est quoi? C'est de la musculation. C'est d'être fort. Maintenant nous on pense que d'être fort pour quelqu'un, c'est normal. Parce que fort c'est quoi en vérité? C'est adapté. D'accord? Donc maintenant toi, quand tu acceptes une réalité, tu adaptes à la réalité. Regardez par exemple. Vous êtes dans une maison chaude, il fait chaud. D'accord? Vous sortez dehors, il fait froid. Qu'est-ce qui se passe? Vous frissonnez. Vous dites, ouf. Ouais. Vous savez ce que c'est le frisson? Le frisson, c'est l'adaptation entre la différence de température dans la maison et dehors de la maison. Ça va? Maintenant, de la même manière que tu frissonnes physiquement, tu frissonnes aussi psychologiquement. Tu étais un employé. Tu étais un employé. Bon, c'est vrai qu'il y avait des soucis, il y avait le stress, il y avait le truc, mais maintenant que tu es devenu un patron, oh, c'est des autres frissons. Ah, personne n'est là pour t'obliger. Mais c'est toi qui dois sortir les 67 000 euros de salaire pour tout le monde. Et après, tu verras si tu vas te payer. Donc tu dis, oui, les patrons, ils gagnent beaucoup. Oui, mais ils prennent des risques, ils prennent des efforts. Tu veux les faire, toi? Donc tu vois, les frissons, c'est pareil, ouais. Les frissons du mariage, les frissons de l'éducation. Donc c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, à chaque fois que tu changes de situation, à chaque fois que tu changes de statut, à chaque fois que tu changes d'obligation, il va y avoir un temps d'adaptation entre ce que tu es et ce que tu deviens. C'est normal. Ça crée des frissons. Voilà. Maintenant la question elle est, numéro 1, que ce que tu es, tu l'acceptes. Numéro 2, ce que tu vas devenir, tu l'acceptes. Alors maintenant, elle est de savoir, comme un effort, ouais, on a dit qu'il n'est pas nécessaire puisque tu es fort. Il y a une situation où tu es forte, oui, et il y a une situation où tu as la force de changer. Ça ne t'a pas coûté de changer normalement. Ça s'appelle la capacité d'adaptation. On appelle ça en français l'intelligence. Ils disent l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité d'adaptation. Pourquoi l'homme il est intelligent? Parce qu'il s'adapte. Il y a des gens qui vivent dans des pays où il fait 50 degrés au-dessus de zéro, il y en a qui vivent à moins 40. L'adapter. Ils ont survécu à Auschwitz, d'accord, et ils ont survécu à Miami. C'est pas évident. D'accord. L'autre, il a survécu à la tentation du cholestérol, et l'autre, il a survécu à ne pas manger pendant 3 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il s'adapte. Maintenant, encore une fois, de la même manière que, on va dire, une situation plane, elle ne demande pas d'effort parce que tu l'as accepté, il y a un autre effort qui s'appelle de passer à une autre situation. Alors ça, c'est la logique de l'escalier. Je pense que vous avez déjà utilisé un escalier. Oui, non? L'escalier est un grand moussard. Parce qu'un escalier, c'est quoi? Ce sont des marches. D'accord? Maintenant, quand tu es en bas et tu veux monter en haut d'une montagne, alors quelqu'un te dit, saute en haut de la montagne. Tu dis, c'est pas possible. Tu dis, oui, t'as raison. Alors on va te faire un escalier. C'est la même distance, mais elle est découpée en petits morceaux. Ça va? Maintenant, dans un escalier, il y a deux étapes. Il y a une étape plane, ouais, et une étape horizontale et une étape verticale. L'étape verticale, c'est la hauteur que tu dois monter en plus. L'étape horizontale, c'est l'étape que tu as atteint quand tu as monté les. D'accord? Donc ça s'appelle du repos, ça s'appelle un effort. La vie, c'est un escalier. C'est une succession d'efforts et de repos, d'efforts et de repos. Maintenant, il y en a toute leur vie, ils attendent le repos. Ouais, il y en a toute leur vie, ils cherchent l'effort. Mais lorsqu'il y a un truc bizarre, ouais, quand on fait du sport, plus on fait du sport, plus on a envie de faire du sport. Parce qu'on dit que ça sécrète une hormone, je ne me rappelle jamais du nom, l'endorphine, ouais, qui fait que tu as envie de faire du sport. Ouais, si normalement tu dois être crevé, l'autre il a fait 2 heures de musculation. Il a une peste, il court les murs. Ouais. Alors je te dis, de la même manière qu'il y a une endorphine physique, il y a aussi une endorphine par exemple intellectuelle. Celui qui réfléchit beaucoup, il va réfléchir beaucoup plus facilement que celui qui réfléchit jamais. Parce qu'il est, lui, il a pas une endorphine, il a une endormorphine. Ouais, il y a des gens, en fait, tu leur poses une question. Oh là. Il sent la question qu'il fait comme ça. Ça veut dire que c'est des terrains qui n'ont jamais été explorés. Ouais. C'est pas possible. C'est quand on dit tu raisonnes. Est-ce que tu raisonnes? Quand tu raisonnes, la guitare, elle a une résonance. Ouais. C'est le son qui résonne à l'intérieur. Eh ben, l'événement qui est à l'extérieur, il résonne à l'intérieur. Ça s'appelle raisonner. Réfléchir, c'est pareil. Le miroir, il réfléchit. Alors, je dis, est-ce que tu réfléchis? Tu dis, je ne suis pas un miroir. Ah, mais si tu réfléchis, pourquoi? Parce que l'image qui est à l'extérieur, elle se reflète dans ton cerveau, mais c'est là, dans le cerveau, c'est toi qui la fabriques. Quand tu réfléchis. Donc toute la vie, on réfléchit et on raisonne. Maintenant, si tu réfléchis bien, le seul lien que tu entretiens avec la réalité, c'est la conscience que tu as de la réalité. Donc celui qui ne réfléchit pas, donc il n'a pas l'équivalent de la réalité à l'intérieur, donc il ne vit pas la réalité. Celui-là, je comprends, il est en dépression, il est enfermé dans sa souffrance. Celui-là, il a pris certaines vitamines qui sont interdites par la loi, donc il est enfermé dans les effets. Celui-là, il est enfermé dans sa peur. Celui-là, il est enfermé dans son angoisse. Mais dis-moi, tous ces gens-là, ils ne réfléchissent pas. Il y en a, ils sont enfermés dans leurs habitudes. Vous voyez ? Ceux-là, ils sont enfermés dans leur peur de comprendre. Celui-là, il est enfermé dans sa peur d'avoir à se remettre en cause. En fait, quand tu fabriques des barrières pour t'éviter de réfléchir, c'est-à-dire de créer le pendant de la réalité à l'intérieur de toi. Et toute la vie, c'est ça, c'est des allers-retours entre le monde intérieur, le monde extérieur. Le monde intérieur, le monde extérieur. Celui qui fait perpétuellement ces allers-retours, donc il est en temps réel, tout le temps, dans la réalité, oui, ben, il est adapté. Donc celui qui réfléchit, ça ne lui demande pas d'effort, puisqu'il n'a jamais quitté la réalité. Donc d'où est-ce qu'il vient d'apparaître? Elle vient du fait qu'elle te demande un effort, et que cet effort, il vient du fait que tu as coupé le contact avec la réalité. Donc quand les gens, tu dis, évolue dans ton couple, pourquoi? Pourquoi ça lui coûte des efforts? Parce que ça fait longtemps qu'il a arrêté de le faire. On te dit, va parler à ton fils, mais ça ne m'intéresse pas. Mais depuis quand tu as renoncé? Mais si tous les jours tu le regardes, ça ne te coûte rien de le faire une fois de plus, puisque de toute façon tu le fais tous les jours. Mais quand tu as arrêté de le faire, c'est très dur. C'est pour ça que les gens des fois ils me disent, écoutez, voilà, on voudrait faire un break, on va prendre une semaine chacun, on a besoin de se séparer un peu. Il y a 2 breaks. Si vous faites un break pour prendre des forces, pour revenir, c'est-à-dire pendant une semaine, vous réfléchissez comment je vais faire pour revenir. Mais si vous faites un break pour vous débarrasser de la pression que vous crée la présence de l'autre, on a rarement vu un type qui enlève un poids de 80 kilos et qui après il le remet. Parce que quand il enlève, il va le remettre. Comment un type qui gagne 10 000 euros par jour en transportant de la drogue, il va retrouver une place à 1 000 euros par mois? Comment celui qui s'est habitué à penser qu'en mentant, ouais, on le croit plus, il va trouver la force de dire la vérité? T'as compris? Donc c'est-à-dire maintenant, ça s'appelle une paresse d'assumer. C'est que la paresse physique, c'est la paresse la plus facile à comprendre. Mais plus tu vas creuser, tu vois que les choses, elles n'ont rien à voir avec l'extériorité. C'est même pas physique. Un mec, il est crevé. Il dit, je suis crevé. Écoute, je suis fatigué. Tu sais quoi? Je suis crevé. Je suis 20 millions d'euros. Écoute, je m'en fiche de l'argent. Je suis crevé. Moi, je vais tuer ta mère. Il va trouver la force. Il va trouver. Si je te coupe une main, il va trouver. Tu dis, mais où il trouve la force? C'est pas possible. Je vous dis, moi, j'ai lu des centaines de livres sur les camps de la mort. Je dis, c'est quoi la limite de la force humaine? Ça n'a pas de sens. Ouais, mangez pas, dormez pas, il recevait des coups, insulté, pas d'avenir, la fumée qui sort de la cheminée. Ouais, on leur fait soulever des pierres qu'il faut 4, 10 personnes, il doit prendre tout seul. L'autre, il pèse 24 kilos. On lui donne des sacs de ciment de 150 kilos. Je ne savais même pas que ça existait, des sacs de 150 kilos. Des sacs de 100 kilos, 150 kilos de ciment. Le type, il pèse 24 kilos. Il les a portés. Pourquoi ? Eh ben, si tu ne les portes pas, une balle dans la tête, et hop, on te jette dans le ruisseau. Alors tu dis, d'où elle vient cette force ? Elle n'est pas physique. C'est pas de la musculation. Alors nous, pourquoi on est convaincus ? Si on n'a pas bien mangé, on n'est pas fort. Si on n'a pas bien dormi, on n'est pas fort. Il dit, oui, mais attends. Tu prends des références. On ne peut pas penser toute la journée à Auschwitz. Oui ? Non, je t'ai pas dit de penser à Auschwitz. Je t'ai dit à penser d'où est-ce qu'elle vient la force. Parce que toi, quand tu crois que la force, elle vient de la bouffe, oui, comme c'est un trompe-l'œil, comme si on n'a pas une porte sur un mur. Donc toi, tu veux prendre la porte. Regarde le vicieux, il n'a pas une porte sur le mur, avec l'ombre tout de la porte, le creux de la porte, mais il a mis un vrai loquet. Donc tout le monde fait... Oh. C'est malin, c'est débile, c'est à quoi ça sert, une porte comme ça. Oh. Oui. Maintenant, l'autre qui s'est convaincu que la bouffe, elle lui donne des forces, oui, c'est un trompe-l'œil. C'est la bouffe qui va le tuer. À force de bouffer, il est mort. C'est gros, non ? Celui-là, il dit qu'il a besoin de beaucoup de sommeil. Bon, tout le monde a besoin de 7 heures, 8 heures. Quelqu'un qui dort 14 heures, il fait une dépression. Chaque fois que tu as un problème, tu vas dormir, toi. J'ai besoin de beaucoup dormir. Je dors 14 heures. Après, j'arrive au travail. Je me repose. Après, je fais une sieste. Après, je prends un dossier, j'ouvre le dossier, après je réfléchis profondément. Enfin, de quoi tu passes la journée à dormir ? Je vous dis, méfiez-vous des gens qui dorment avec les yeux ouverts. Moi, j'ai du mal à vous mimer parce que. On dit en français, il a le regard éteint. Toi, tu peux, tu es vivant, et de temps en temps, tes yeux partent comme ça. Ça peut arriver, une seconde, une demi-seconde. 24 heures par 24. Ça va ? J'étais ailleurs. Être ailleurs, c'est pas très grave. Mais il faut revenir. Il faut revenir de temps en temps. Vous comprenez ? Moi, je vois, je parle avec des gens. Un jour, j'avais une dame. Très gentille, très gentille. Mariée, deux enfants, 7 ans de mariage. Sur Internet. Ouais. MySpace ou TySpace ou Halbelbes. Elle a trouvé un... Elle a envoyé des musiques, des trucs. Un monsieur lui a répondu. Il s'appelle Samuel. Elle est juive, Samuel. Comment ça va, nanana. Et il parle. Et elle commence à se sentir bien. Et elle éprouve des sentiments. Et ma princesse, et tout. Elle est bien. Elle a un problème. Maintenant, elle est amoureuse du type. Mais elle ne ressent plus rien pour son mari. C'est là que l'autre lui dit, écoute, je m'excuse de te dire que je ne m'appelle pas Samuel, je m'appelle Mohamed. Madame Leha. Je ne sais pas si vous sentez le... Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Elle vient chez moi, elle me dit, oui, vous comprenez, comment est-ce que je dois faire ? D'un côté, je suis amoureuse, je n'ai plus de sentiments pour mon mari, même quand je vais avec lui, je pense à l'autre, parce que c'est ça qui me motive. Je dis à l'école, vous étiez rêveuse ? Ou travailleuse. Elle m'a dit toujours rêveuse. Je dis, ben je crois que vous n'êtes pas réveillé encore. Quand je lui parle de sauver son couple, elle fait comme ça. Et quand je lui dis, mais comment ça se passe avec l'autre ? Ah, l'autre, il me parle, il me passe, il me donne des sentiments, il me donne des. Je dis, c'est marrant. L'autre, il n'existe pas. Elle ne l'a jamais vu. Hein. Elle l'a jamais vu. Le pseudo virtuel 01010101. L'autre, il existe, c'est son mari. Ils ont deux enfants qui sont concrets. Il y a une maison. Ouais, c'est du réel. Je dis, le réel ne vous fait rien et le virtuel vous fait vibrer. Il faut arrêter. Vraiment. Il y en a, ils prennent trois souris. Ils prennent un tapis de souris roulé. Ils allument. C'est pas possible d'être... Je dis, pas de la Vera, moi. Parce que il n'y a rien de mal, j'ai rien fait de mal. De toute façon, je ne l'ai jamais vu. Non, c'est pas grave. Il y a juste une petite chose qui est en train de se passer. C'est que vous n'êtes plus dans le réel. Comprenez-vous ? Alors moi, j'ai pris un cas grossier, d'accord. Mais l'autre, il n'est plus dans le réel parce qu'il est dans la haine. Il n'est plus dans le réel. L'autre, il est dans la peur, il n'est plus dans le réel. D'accord? Alors, tu disais, il y a un effort de rester dans le réel. Par exemple, tu vas parler à quelqu'un, tu le bois, mais il m'énerve. D'accord? Mais quand je vais m'énerver, je vais plus être moi-même. Donc, je vais plus être dans le réel. Donc, quand je me maîtrise, en vérité, c'est quoi de se maîtriser? C'est pas de maîtriser sa colère, c'est de rester dans le réel. T'as compris ou non? Là, je vais parler avec mon enfant. Oui, mais il m'énerve tellement, c'est plus mon enfant. Mais non, mais c'est ton enfant. Ah oui, c'est mon enfant. Donc, je dois regarder, c'est mon enfant. Il m'énerve, c'est mon enfant. Il me déçoit, mais c'est mon enfant. Donc, je reste dans le réel. Comprenez ou non? C'est ton mari. Travaille avec ton mari. Grandis avec ton mari. Évolue avec ton mari. Non, mais ça sert à rien. De toute façon, j'ai jamais aimé. Alors, divorce. Non, je peux pas divorcer. Bon, alors, arrange-toi. Donc, c'est quoi le combat? C'est toujours, reviens dans le réel. Échappe au réel. Rentre dans le réel. Repars dans le réel. Maintenant, celui qui est dans le réel, encore une fois, ça lui demande quelque chose. Parce que comme il est dans le réel, ouais, il vit ce qu'il vit. Quand il vit ce qu'il vit, c'est normal de vivre. Ben, c'est comme si moi, quelqu'un me dit, tu sais, c'est pas évident le costume quand même. Tu le portes? Ben oui, je peux. Mais ça te fatigue pas? Je sais pas, ça va coûter plus ou moins 1,5 kg. Toute la journée, tu portes? Ouais, mais c'est... Non, tu n'as pas envie d'aller tout nu. Oh, tout nu. Mais quand, si on va se balader tout nu, il y a quelqu'un qui dit, la peau, ça te fatigue pas, la peau? La chair, ça te fatigue pas? Non, non. Tu vois, tout ce que tu acceptes, ça pèse pas. Tu dis, mon mari me pèse. Il faudrait que je pense à l'accepter. Mon travail me pèse. Il faudrait penser à l'accepter. Donc, tu as compris que toute chose que tu n'acceptes pas, et donc qui ne se réfléchit pas dans ton intériorité, ça te devient un effort. Ouais. Or, le problème, c'est que nous, on dit que l'effort s'appelle la vie. Donc, celui que l'effort tue, c'est qu'il n'est pas vivant. Pour ça qu'il y a une paresse. Le fond de la paresse, c'est quoi? C'est ce que c'est. C'est que la neshama, elle vient du monde éternel. On la met dans ce corps. Pour la neshama, le corps est un surpoids. D'accord? Donc, la neshama, elle doit donner de la force au corps. Mais le problème, c'est que le corps vient de la terre. La terre, il y a l'attraction terrestre. Donc le corps, il est toujours attiré vers la terre, et la neshama, elle est toujours attirée vers le ciel. Comment on va faire? Alors tu décides. Qu'est-ce qui va être l'élément prépondérant chez toi? Est-ce que c'est la neshama et la volonté qui vient de la neshama, et la motivation qui vient de la volonté, et la détermination qui vient de la motivation, qui vient de la volonté, qui vient de la neshama? Oui ou non? Ça va être le corps, la fatigue, la lourdeur, le rejet de la réalité, la victimisation, le sommeil éternel. Laissez-moi dormir. Il y en a comme ça, tous les jours. Je suis fatigué. J'en peux plus. Je suis au bout. Je suis au bout de force. Je suis mort. Je suis crevé. Ils ont inventé plein d'expressions pour mourir de leur vivant. C'est ça? Quelqu'un, non? Il est dans cette dynamique. Jusqu'à tel point, regardez ce qui est marqué là. Il dit, le gain de Vilna. Tahavot, Atzel, Tamitenu. Les désirs du paresseux le tuent. Tamitenu. Pourquoi? Qui met ané yadav la rasot. Parce qu'il retient ses mains d'agir. Regardez ce qu'il dit le gars de Vina. Chez Yoshev Bebeto, il est assis dans sa maison. Vechoshev tamid marchavot. Et il pense tout le temps dans sa tête. Il fait des plans, il fait des calculs. On peut faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il monte des mondes, il monte des projets, il monte des trains, mais tout dans ma tête. Regarde bien. Il dit, mais yagea atzmo be marchavot. Et il se fatigue lui-même dans des pensées. Ech yasik remdato. Comment il va atteindre l'objet de sa convoitise? Vezenikre itzavot. Et c'est ce qu'on appelle la tristesse. Qui a Hoshem Marchavot ou Tamid Bedaaga? Parce que celui qui pense des pensées, il est tout le temps dans le souci. Donc il y a deux Marchavot. Il y a une Marchava qui est un support de réalisation. et ça c'est très important, s'appelle les Zehut Chacham Rohet HaNolad, s'appelle la capacité de projeter, s'appelle l'anticipation, c'est très bien. Mais il y a des Machshavot qui sont des pensées pour des pensées, qui se suffisent à elles-mêmes. Ouais. Alors celle-là, elle facilite. Mais dans la même énergie que la personne, elle peut dépenser à faire quelque chose physiquement, elle peut dépenser la même énergie mentalement. Et elle est creuse. Mais c'est, comme ce n'est pas une vraie fatigue, oui, c'est pas une fatigue qui fait dormir, par exemple. Vous avez remarqué, il y a des gens qui disent « je dors mal la nuit ». Ouais. C'est pas possible, puisque c'est marqué « mais tout cache et nata oven ». Il est doux le sommeil du travailleur. Donc quand tu as travaillé, tu dors bien. Donc quand tu n'as pas travaillé,
tu dors mal.
Tu dors mal. Tu dis, mais c'est pas vrai, je passe ma vie au travail. Maintenant, c'est quoi travailler? Les gens croient travailler, ça veut dire soulever des caisses, assumer des responsabilités. Non, non, non. Travailler, c'est faire ce que tu as à faire. Maintenant, quand le soir, tu as fait ce que tu avais à faire, tu dors bien. Maintenant, quand toi, dans ta tête, tu penses que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, donc tu vas essayer de faire ce que tu n'as pas fait pendant ton sommeil. Donc tu ne peux jamais dormir. Par exemple, celui qui n'a pas confiance en lui, oui, il croit toujours qu'il pouvait faire mieux. Donc il s'est efforcé toute la journée de faire rien puisqu'il pense qu'il aurait pu faire mieux. Donc la nuit, il n'arrive pas à dormir puisqu'il dit « j'ai pas fait ce que j'avais à faire ». C'est pas parce qu'il n'a pas fait, puisqu'il a fait. Mais comme il est convaincu qu'il pouvait faire mieux, parce qu'à chaque fois qu'il a amené une note, on lui a dit « tu peux faire mieux ». Chaque fois qu'il a amené un résultat, on l'a dit « j'attendais mieux de toi ». Donc lui, il croit qu'il est tout le temps en dessous de ce qu'il peut faire. Un enfant, il te donne une note, tu lui dis « c'est bien ». C'est bien. Ça l'encourage, il va faire mieux. Mais si tu lui dis « j'attendais mieux », alors il dit « ah, donc c'est pas bien ». C'est pas que c'est pas bien, mais de toi, j'attendais mieux. Mais c'est pas méchant. Il dit, c'est pareil. Maintenant, nous, on y réfléchit. Comment quelqu'un, il peut se fatiguer à penser? Il dit, cette fatigue-là, c'est ça ce qu'on appelle la tristesse. Je sais pas si vous... Ouais, c'est ça la tristesse. C'est-à-dire que les gens qui sont tristes, en fin de compte, c'est des gens qui se fatiguent à penser à des choses qui ne servent à rien. T'as perdu un proche, t'as perdu un proche. Il est parti, d'accord. T'as pleuré, d'accord. T'as fait le deuil, t'as fait le deuil, d'accord. Alors il y a une loi, malheureusement, qui existe dans la nature, qui s'appelle la vie continue. Toi, tu dis non. Tu dis non, je peux pas. Alors toute ta vie, tu restes. Il porte le deuil, toute sa vie. Celui-là, il porte le deuil du magasin qu'il avait à Beyrouth. Et ouais, il faut passer à autre chose. Ce petit magasin. Ça donnait sur eux. Les gens, ils rentraient. Et ouais, il faut passer à autre chose. Mettre des chaussures, tu les aimes, tu les aimes. Un jour, tu vas les jeter, on va pas t'enterrer avec. Tu passes à autre chose. Le costume, tu changes. C'est normal. C'est des passages. Il dit non, qu'est-ce qu'il fait? Il développe une énergie énorme pour conserver.
Alors,
par exemple, moi, combien de fois des gens qui pleuraient un mort 10 ans après, je dis, vous savez, si vous existez, vous ne trahissez pas la personne. L'autre, il croit que s'il va aller à une joie, s'il va faire un kiff, il trahit le mort. Comme après les camps de la mort, il y en a, ils ont dit que pourquoi ils sont restés vivants. Ils ont la culpabilité pourquoi ils sont restés vivants. Alors que chacun dans un deuil, il a toujours cette tristesse de dire, mais pourquoi l'autre il est mort, moi je suis resté. Bon Dieu, il fait des hechbonot, il a des comptes à lui, et plus tard, avec Mashiach, il va tout nous expliquer. Mais en attendant cette prise de tête de réfléchir à une chose que tu ne peux pas maîtriser, ça s'appelle la tristesse.
Tristesse.
C'est ça la tristesse. Encore une fois, on doit réfléchir. On se pose des questions, mais sur des choses que tu peux faire avancer, que ça s'est fait pour créer une solution, c'est fait pour donner un niveau de maturité. Mais penser pour penser, c'est la tristesse. Ça détruit la personne. Je te dis, la personne, elle est épuisée. Des gens qui sont en dépression, ils sont épuisés mentalement parce que ça fait 10 ans qu'ils réfléchissent à un problème. Donc, quel âge est-ce là 35 ans. Quand il avait 20 ans, il a voulu être ingénieur. Son père, il lui a dit non. Et il a 35 ans, il est encore en train d'essayer de passer le concours pour rentrer à l'école d'ingénieur. Je n'ai pas compris. Tu veux prouver à ton père? Tu veux être ingénieur? Il m'a dit non, ça ne m'intéresse pas vraiment. comme une mouche. Vous savez comment on attrape une mouche? Vous savez ou non? On met un verre dessus. Maintenant, quand la mouche elle est dans le verre, tu n'es pas obligé de laisser le verre sur la table. Tu peux soulever. Parce que jamais la mouche, elle pense à faire comme ça. Elle continue à essayer de passer. Un jour, ton père, il t'a fait comme ça. Un jour, ta mère, elle t'a fait ça. Un jour, un professeur, il t'a fait ça. Et toi, tu dis... Si ça passe pas par là, ça va passer par là. Et bien, au prochain, les gens, ils ne réussissent pas avec leur famille, ils réussissent avec leur travail. Ils s'épanouissent avec leur famille, c'est-à-dire avec leur mariage. Il y en a avec un changement de pays. Il y en a avec un changement de milieu. Au prochain, il y a d'autres sorties. Tu vas pas être une mouche comme ça. Il a fait 34 années d'analyse parce que son père lui a mal parlé, parce que sa mère lui a mal parlé. Et ouais, il faut passer à autre chose. La mouche, même la mouche, elle pourrait faire ça. Alors toi, tu n'es pas obligé de rester dans ton verre. Ouais. Il dit ça aussi, c'est une flemme existentielle, c'est une paresse existentielle. Il dit celle-là, elle fatigue. Et comme c'est un trompe-l'œil, parce que tu dis, mais vraiment, je suis fatigué. Vous croyez que je prends des antidépresseurs pour rien? Je dis, oui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Parce qu'à l'époque, le problème, c'est comment ça se fait que tu as commencé à les prendre. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est difficile de rester debout. Alors, je vais trouver une chaise roulante. C'est là une chaise roulante chimique. C'est la chaise roulante mécanique. C'est la chaise roulante parentale. Oui, c'est logique. Alors qu'en vérité, ouais, puisqu'on a dit que ça coûte autant d'énergie de faire le bien que de faire le mal, ça prend autant d'énergie pour trouver un problème que pour trouver une solution. Donc c'est quoi la logique? C'est quoi l'antidote? Mais c'est la résoudre. Ouais. C'est-à-dire de maintenir les choses en mouvement, maintenir vivantes. Vous savez, quand vous avez une surface d'eau, si elle n'est pas changée, régénérée, parce qu'il y a une rivière qui tombe dedans, parce qu'il y a la pluie qui vient dedans, au bout d'un moment, ça sent mauvais. Pourtant, c'est de l'eau. L'eau, c'est la vie, et l'eau, c'est la mort. Les bactéries, elles se développent, parce que c'est pourri, elle n'est pas régénérée. Donc maintenant, ta vie, c'est pareil. Comment est-ce qu'elle se régénère, ta vie? Quel sang nouveau? Quel souffle nouveau? Alors ça, c'est la zrizout. Qu'est-ce que tu fais en réalité? Tu réaménages les choses, c'est-à-dire que tu redonnes les choses, tu remets des forces dans les choses. Pour ça, il dit le Raphaïm vital. Il y a quatre éléments dans la personne, comme dans la matière. L'eau, le feu, l'air et le carbone. L'eau, le feu, l'air et le carbone. Il y a deux éléments lourds, le carbone et l'eau. Ils sont lourds. Il y a deux éléments légers, le feu et l'air. Maintenant, l'air, en hébreu, c'est roi. Oui. Mais Ruach, c'est aussi l'esprit. Ruach Elohim. Ouais. D'accord? Esh, c'est le feu. Mais Esh, c'est aussi l'énergie. C'est la joie. Maintenant, il dit le Raphaïm vital. Les deux éléments lourds, oui, ils vont vers le bas. Quand vous prenez des cailloux, vous les jetez dans une piscine. Où ils vont les cailloux? Au fond de la piscine. Mais si tu crées des remous à l'intérieur de la piscine, même les cailloux, tu peux les faire remonter. Il dit, si quelqu'un y maintient en activité Ruach, son cerveau, tout le temps, ouais. Et il maintient en activité sa joie, c'est-à-dire que non seulement qu'il développe, c'est-à-dire il maintient sa joie, mais en plus il capitalise. Il fait des choses qui lui font plaisir, il voit des choses qui lui font plaisir, il rencontre des gens qui lui font plaisir, donc il capitalise sa joie. Ouais. Alors les deux éléments légers qui sont l'eau et le feu qui sont en lui, c'est-à-dire sa joie et son intellect, ils vont soulever les éléments lourds, qui de toute façon vont vers le bas. Parce que l'eau et le carbone, ils vont aller vers le bas. Il dit, si quelqu'un n'active pas, il dit dans un frame vital, si quelqu'un n'active pas les deux éléments légers, il dit, de là, il vient la tristesse, de là, il vient la paresse, de là, il vient la dépression. Un type, il me dit, monsieur le rabbin, écoutez, mon père, il a 83 ans, non, j'exagère, il a 77 ans, il fait des marchés, il travaille, il fait des marchés. Je sais pas, il prend son camion, il décharge la marchandise, il m'a dit, appelez-le, essayez de le convaincre. Je dis, pourquoi tu veux l'emmener au cimetière? C'est ça qui le tient. Une fois, un monsieur comme ça, il m'appelle. Une dame, la pauvre Laura Nenou, elle avait trois enfants, deux garçons et une fille. Un garçon, 29 ans, ingénieur. Il a pris sa voiture, il a été à faire une course, il est mort. Accident de la route. Laura Nenou, Laura Lechem. Moi, il me téléphone, il me dit, est-ce qu'on peut faire une conférence? Je vais là-bas, je fais la conférence. Elle me dit, ça vous dérange si on organise des conférences? Elle-même, elle a voulu, elle a passé à organiser des conférences. tous les mois. Au bout de 6 mois, son mari m'a attrapé, il m'a dit, écoutez, monsieur le rabbin, tout ça, ça va bien, mais vous savez, on a une pharmacie, une grosse pharmacie, 12 employés, un gros chiffre d'affaires, on a besoin de ça, ma femme est active, on ne peut plus se permettre les conférences, c'est trop. Elle s'occupe, elle fait les prospectus, elle téléphone aux gens, elle fait la publicité à la radio, elle fait des annonces radio, elle ne peut plus, c'est trop. Je dis, écoutez, monsieur, moi je crois en Dieu, vous croyez en Dieu? Il m'a dit, moi j'élève des chevaux. Je dis, bon. C'est vrai en plus. Je dis, voyez votre femme, avec une claque comme ça, elle devrait être dans un asile de fous. Elle a trouvé cette énergie-là qu'elle met dans la conférence. Maintenant, si vous voulez, on arrête. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Quand il y a un événement, il peut faire ou une explosion, ou une implosion. Mais l'implosion, tu ne sais pas jusqu'où elle peut aller. Jusqu'à l'ulcère, jusqu'au cancer. Elle va à l'intérieur. On fait une explosion. C'est pareil. Ici, cette personne-là, elle a un cri. Elle a un cri à crier. Laisse-la crier. Elle va, oh non, ça ne se fait pas. Laisse-la crier. Les gens, des fois, ils pleurent. Ils ont honte de pleurer. Mais pleure. Pleure, c'est très bon le pleur. Parce que pleure, c'est bitou la nefesh. C'est-à-dire, ça sort. Si tu pleures à l'intérieur, c'est dangereux. Il faut que ça sorte. C'est exactement pareil. Que quoi? Quelqu'un, il a cette énergie-là. Il a une énergie énorme. Elle est très puissante. Maintenant, cette énergie, elle a besoin d'être activée. Elle a besoin. Si elle n'est pas activée, elle devient active dans l'inverse. Vous me suivez ou non? Elle est active dans la destruction. Puisqu'elle n'est pas active dans la construction. Ça veut dire, de toute façon, Adam le Amal Yulad. L'homme, il a été créé pour faire des efforts. Mais pas comme nous, on croit. L'homme a été créé pour faire des efforts. Il faut crever, il faut souffrir. Mais non. Adam n'est Amal Yulad. C'est-à-dire que l'homme, c'est un hyperproductif. Oui. Et ce qu'il maintient en mouvement, et ce qu'il maintient en vie, c'est justement cette productivité. Donc ton cerveau, il marche dans le travail. Ton cerveau, il marche dans la Gemara. Ton cerveau, il marche dans ta famille. Ton corps, il marche. Pourquoi tu prends l'ascenseur? Prends l'escalier. Ah, tu sais, c'est pas évident. Prends l'escalier. Après, demande à ton cardiologue qu'est-ce qu'il en pense. Prends de temps en temps l'escalier, c'est bien pour toi. Ouais. C'est bien. Allez, vas-y. Ton père, il fait les marchés. Laisse-le faire les marchés à 77 ans. C'est bien. D'accord. Les gens comme ça, ils font la retraite. Le lendemain, j'ai mal ici. Une semaine après, j'ai le rein après. Après, ils commencent à avoir de l'arthrite, le thyroïdique, la bactérie, la grippe. Et la grand-mère, 87 ans, FIFA. Elle s'est jamais reposée. Et l'autre, 27 ans. Oh, j'en peux plus. Je suis mort. Elle a couché une fois 20,7. C'est fini. Elle a pris des forces. Tu veux, je te montre à Bnei Brak des femmes qui ont 22 enfants. 22 enfants. 22 qu'elle a couché. Pas une équipe de foot qu'elle a.
Deux équipes.
Ouais. 11 remplaçants, tu te rends compte, c'est de la folie. Ouais. Et tu vas voir FIFA. Ben, tu t'imagines avec les chevals. Elle doit commencer à préparer samedi soir. Ben, 22 personnes qui mangent. Il y en a à la table. Waouh. Ouais. Moi, j'ai honte de dire combien j'ai d'enfants. Les gens, ils vont revenir.
Hein? Quand on est à 22, c'est 32 personnes.
Ah, les gens.
Parce qu'ils sont déjà mariés.
Bon, après, ah non, moi, je te dis avant. Alors là, après. Non, c'est le plus grand, il a 22 ans. Bon, ça va, c'est jouable. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, tu crois qu'elle est fatiguée? Elle a une pêche du tonnerre. Tu crois qu'elle est fatiguée? Elle a une pêche du tonnerre. Ouais. C'est pareil maintenant. Il aime son travail. S'il est fatigué, il n'est pas fatigué. Parce qu'il aime. Vous comprenez ou non? Il s'investit. Celui-là, il dit, comment il fait pour étudier 18 heures par jour, alors que moi, au bout d'un quart d'heure, je m'endors. Parce que tu n'as pas envie de faire les télim, alors tu dors. Oui. C'est que cette logique-là, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un, encore une fois, il maintient en mouvement, il maintient en mouvement les éléments légers. Ouais. Et c'est ça qu'il va faire. Quand il va étudier la Torah, il va se casser la tête. Quand il prie, il prie. Pourquoi les gens, ils sont fatigués de prier? Je vois, parce qu'ils ne prient pas. C'est pas une prière, ça. Tu pries. Quand tu pries, tu pries. D'accord? Tu dis, mais je peux pas. J'ai 3 secondes déjà, ils finissent la mida. Et après. Après, il dit, on peut pas parler pendant la prière. Mais jamais tu t'es demandé, comment ça se fait que l'autre à côté, il met 10 minutes, et toi tu mets 66 secondes. Qu'est-ce que tu crois? Il ne sait pas lire. Il a une barbe comme ça. Comment ça se fait? Mais c'est évident, parce qu'il prie. Et quoi ça se fait? Toi, tu lis un texte. Je dis vite. Ouf, que je me débarrasse vite. Il y en a. Ils mettent les téléphones une fois par semaine. Animit Kaven, Latset, Miyede, Hova. Mais je fais le collage. Il met le skilip le matin pour toute la semaine. Il y en a pour une fois par an. Il y en a à la bar mitzvah. Il dit Adio Mamita. Celui-là, il est obligé de revenir dans un gilgoul de bœuf pour qu'il devienne une retsoua de téfilin. Une lanière. Comme ça, il va mettre les téfilin toute la vie, celui-là. Il est devenu une lanière. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si on maintient cette énergie en mouvement, ouais, et qu'on est capable de puiser, non seulement qu'on ne fatigue pas, mais on ne s'arrête jamais. C'est pour ça que je vous avais dit une fois, un rave il est venu chez moi, avec les cheveux blancs. Il m'a dit, tu n'as pas tellement de cheveux blancs. Comment ça se fait? Moi, je dis, je vais te raconter une histoire. Je vous l'ai déjà raconté une histoire, mais je vous la raconte, ça va? Ouais. Pas grave? Bon, au pire, vous ne vous en rappelez pas. Donc, un jour, il y a une dame, sa fille avec son gendre, et ils avaient 4 ans, donc c'est 4 petits-enfants, ils ont eu un accident de la route, les deux parents ils sont morts. Il y avait que ils sont restés les 4 enfants. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, elle est grand-mère déjà, on va placer les enfants dans des orphelinats. Elle a été posée la question à Rav Char. Le Rav Char, est-ce qu'on lui voit? Elle était le voir. Elle lui a dit, voilà Rav, est-ce que je dois les mettre dans un orphelinat? Parce que moi j'ai déjà 60 ans. Ou est-ce que je dois m'occuper de ces enfants? Le Rav, il a répondu, il a dit, celui qui s'occupe des jeunes, il reste jeune. Elle n'a pas compris, parce que ni elle a dit oui, ni elle a dit non. Elle n'a pas compris. Bon, elle a gardé les enfants. Elle s'est occupée d'eux. Quand elle a eu 80 ans, maintenant les enfants ils ont 20 ans et 25, je ne sais pas quoi. Ces petits-enfants qui l'appellent maman, et ils leur dit, maman, il faut que tu ailles chez le docteur, quand même 80 ans. Bon, ça va, moi, prochain temps, bonne santé, mais va faire des examens, on sait jamais. Elle va faire des examens. Appelez-moi, c'est l'histoire qui s'est passée. Le médecin, il l'a ausculté, il a dit, écoutez, madame, je comprends pas. Vos artères, vos poumons, vos vous avez des membres d'une femme de 20 ans. Ils ont pas vie. On sait reconnaître, il y a l'usure, il y a le cholestérol, je ne sais pas, il faut demander au docteur. Ouais. Mais là, tout neuf, c'est pas possible. C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, celui qui s'occupe des jeunes, il reste jeune. Comprenez ou non? C'est pareil. C'est quelqu'un qui comprend. Comment tu vis dans la vie? Alors tu dis, celui qui peut s'occuper des gens, il s'occupe des gens. Celui qui s'occupe des jeunes, il s'occupe des jeunes. Alors même dans ton travail, tu peux être vieux, tu peux dire, ça y est, j'ai tout compris, maintenant... Tu dis non, tu fais un travail jeune, tu dis comment on va renouveler les choses, comment on va travailler, comment on va changer d'équipe, comment on va développer une nouvelle ligne, comment tu restes jeune dans ton travail. Ouais. Avec tes enfants séparés, tu sais, vrai, lui, j'ai fait beaucoup d'efforts avec lui, mais je vais recommencer avec l'autre. Maintenant, je vais voir une autre manière, parce qu'il a un autre caractère. Et l'autre, avec ta femme, tu dis on va faire des surprises, on va faire des choses. Tu restes jeune. Ou tu dis non, j'ai plus vraiment de notre âge, tu sais, on a dépassé un peu. Maintenant, on est un peu sur la vitesse de croyance, la pente douce vers le cercle. Déjà, ouais. Non, t'es jeune. Oui, c'est jeune. Donc ça veut dire quoi? Cette énergie-là, encore une fois, qui a l'air d'être, mais il n'arrête pas de bouger, il n'arrête pas de courir, il n'arrête pas de faire des choses, il n'arrête pas. Tu crois ça? C'est ça qui donne la pêche. C'est ça qui donne la force. C'est-à-dire que le vrai antidote de la paresse, c'est la joie, c'est la confiance en soi, c'est une relation avec Hachem qui est vraie, qui est pure, ouais, pas des obligations. Écoutez, j'ai peur de mourir. Mais elle était finie. Ça porte bonheur. Je fais le Shabbat, il faut bien que je me repose un jour. Je fais Kippour, c'est bon pour la ligne. Tu vois. Donc, comme il ne vit pas la mitzvah ne le nourrit pas. Oui. Alors que le contraire, s'il est capable de puiser à tous les niveaux, l'énergie spirituelle de la mitzvah, l'énergie mentale de la réflexion, de l'évolution, l'énergie intellectuelle et spirituelle de l'étude de la Torah, l'énergie essentielle de la prière, ouais. Chaque facette de la vie, elle apporte une énergie. Alors que celui qui va puiser ça et qui attrape cette maladie-là, c'est une très bonne maladie, de tout le temps chercher, toujours avancer, toujours évoluer, toujours. Donc il va jamais se fatiguer, il va même pas vieillir. Parce qu'il a dit, le Midrash, il dit que quand Moshe Rabbeinu, il arrive le jour de sa mort, il avait la peau, les yeux nets, la force nette, tout. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais rentré dans cette logique de bon, ben, je crois que c'est bon, là, ça suffit, on va passer à autre chose, tu sais, il faut être conscient, il faut. Là, tu t'enterres, tu t'enfonces. Le corps, il va changer, c'est sûr, tu vas adapter à ton âge, mais pas dans une logique de renoncement. Comme un enfant de 8 ans, il ne porte pas un poids de 80 kg. Un monsieur de 80 ans, il ne porte pas une valise de 40 kg. Mais par rapport à son âge, il a la même intensité. Vous suivez ou non? Mais si quelqu'un a 40 ans, il se considère 80 ans, il est en dans le négatif. Si quelqu'un a 8 ans, il se pense à 18 ans, il est dans le négatif, dans le positif-négatif. D'accord? Donc c'est ça qui détruit la personne. Mais si quelqu'un, au contraire, il maintient, encore une fois, une énergie positive, avec toujours un regard vers l'avant, et avec un aspirateur de Nitzutzot, d'étincelle positive, dans sa prière, dans ses mitzvot, après dans sa relation à l'autre, dans sa relation à la vie, ouais, et des projets. Écris un livre. Écris un commentaire sur le hommage. Raconte ton expérience. Ouvre des horizons. Si, tiens, je vais faire une formation sur ça, je vais commencer à travailler sur ça. Mais c'est pas mon métier, ça peut te faire. C'est vrai, avant les gens, ils ont fait 4 métiers dans leur vie. Il y a 5 métiers. 5 métiers complètement différents. Aujourd'hui, non. Le type, il te dit, j'ai attendu jusqu'à l'âge de 35 ans pour être ingénieur, alors je vais être ingénieur jusqu'à ma mort. Tout, tu sais. Avant, les gens, ils étaient forgerons, après, ils étaient commerçants, après, ils étaient avocats. Je dis, avocat, comment il a fait pour devenir avocat? Eh bien, le mec, il s'est mis, il a travaillé des... Ouais. Il s'est mis, il a pris ses livres et il n'avait rien à faire au boulot. Il a pris avocat, il est devenu avocat. Ça existe. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a un renouvellement. Eh ben, tu vois le type à 80 ans, il est jeune. L'autre à 43 ans, il est vieux. Donc ça veut dire qu'il y a une paresse physique, une paresse mentale, une paresse intellectuelle, une paresse spirituelle, une paresse psychologique. Eh ben, il y a combien de paresse? Donc pour chaque paresse, il y a l'antidote. Ouais, l'antidote. Et l'antidote à chaque fois, c'est une manière d'aller puiser l'énergie qui est spécifique à pour faire le contrepoids de cette paresse-là. Alors la Torah, elle donne pour chaque élément ce qui est nécessaire. Après, il faut avoir l'intelligence juste d'utiliser de la bonne manière les éléments que la Torah te propose.
Alors, je peux
poser
une question?
Avec plaisir.
Est-ce que vous croyez que les égoïstes, ça c'est ce qu'on voit trop souvent,
ouais,
les égoïstes, ce sont les personnes qui vivent plus longtemps? Ça veut dire, c'est un peu une chose que ça ressemble de voir parfois. Ça veut dire, ce que je vois, une égoïste est une personne très active.
Ouais.
Alors c'est le contraire de la personne de laquelle on a parlé.
Ouais.
C'est une personne que parfois ça ressemble de vie, je ne dis pas mieux parce que c'est pas mieux, moralement c'est pas mieux, mais parfois c'est la personne qui... Parce qu'elle ne s'occupe pas beaucoup des autres, des gens qui l'entourent, des problèmes et tout ça, il arrive encore à vivre mieux.
Alors,
qu'est-ce que vous pensez de ça?
Oui. Vous avez raison. Par exemple, quand vous prenez un bout de bois, ouais, si vous voulez le conserver, vous enlevez la sève, il peut durer 1000 ans. Mais il est mort en réalité. Un bout de bois. Il va rester longtemps, mais il est mort. D'accord? Celui qui vit que pour lui, en réalité, il est déjà mort. Alors, après, le contraire, de voir quelqu'un, parce qu'il s'occupe des autres, vous avez l'impression qu'il se fatigue plus, c'est pas le problème qu'il vit pour les autres. C'est que soit il vit pour les autres parce qu'il attend quelque chose, ça c'est mauvais, ça épuise. Soit il vit pour les autres parce qu'il croit qu'il peut manipuler, ça aussi ça fatigue. D'accord? Donc c'est pas un vrai chesed, c'est un chesed qui est déjà orienté. Mais quand quelqu'un, il sait qu'il attend rien et qu'il le fait parce qu'il pense qu'il doit le faire ou parce que la Torah lui a demandé de le faire, mais sans calcul, sans rien, donc il va pas générer la déception qu'il va le faire. Vieillir prématurément. Comprenez cette logique? Alors là, il crée de l'énergie pure, qui s'arrête jamais. Mais si quelqu'un, il fait toujours dans un sens d'attendre, ou d'être exigeant, ou d'être déçu, c'est ça qui fait vieillir. C'est ça. Donc, vous avez raison, que l'autre, il vit plus longtemps. Mais quelle vie? De quoi on parle? Ouais. Un bout de bois. L'autre, maintenant, vous avez l'impression qu'il vit moins longtemps, mais il y a une partie qui est de sa faute. Et l'autre côté, qu'il a vécu ce qu'il voulait vivre et qu'il était heureux de le vivre. Alors, ça veut dire quoi, long et court? Combien ou non? L'autre, 1000 ans après sa mort, on parle encore de lui. Et l'autre, le lendemain de son... Il dit, comment il s'appelait? Comment ça se fait? Parce que je lui ai dit, il était déjà mort. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez une question pendant le cours?
C'était au commencement de votre
campagne. Oui. À vous, à vous. Voilà.
Il fallait de s'adapter, s'adapter à la situation.
Ouais.
Mais peut-être qu'on s'adapte aussi au bien et au mal.
Bien sûr, ouais.
Alors, et de cette façon-là, vous acceptez les gens qui s'adaptent au mal aussi.
J'ai dit ça, non?
Comment, pardon?
Non, quand je donne l'exemple que quelqu'un il peut vivre à moins 40.
Vous parlez aussi de l'escalier. Et
non, mais c'est lui qui accepte, là, qui accepte. Il accepte la température. Ouais, il fait moins 40, il survit. Mais quand quelqu'un, il renonce à moins 40, il meurt. Donc moi, quand je dis s'adapter, pour construire, pas s'adapter pour s'enfermer. Comme l'autre, il dit, ben, là, je suis en dépression, ben, viens, on va s'en sortir, on va prendre des médicaments, on va faire une thérapie, on va faire du sport, on va faire de la physiothérapie, on va faire la guerre. Non, c'est plus la peine, ça sert plus à rien. Lui, il est adapté, mais immobile. On parle d'adapter en mouvement. Celui qui est adapté en mouvement, il va s'en sortir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon?
C'est bon.
Vous voulez faire un vide?
On a fait tout.
Le 15 novembre.
Le 15 novembre.
Le 15 novembre.
On n'a pas choisi. Donc le thème sera, on n'a pas choisi. C'est un très beau thème. Qui vous plaira, je suis sûr.
Un mois.
Hein? Ah oui, alors on dédie le cours l'Elul Nishmatam de tous les Sadikim d'Israël et en particulier de Rav Kadouri de Rav Mordechai Eliyahu et aussi de des gens en Iftar
Yaakov Ben Sacha Yitzhak Ben Mazal
Eliyahu Ben Aisha, Yitzhak Ben Aisha, Avraham Shimon Ben Simcha,
Chaim
Ben Sara,
Reuven Ben Avraham,
Latife Ben Mazal,
Reuven
Hana Bat Osher Anzel,
Amen.
Reuven Beriro,
Reuven Gershon Ben Avraham,
Shlomo Ben Moshe, Mazal Bat Esther, Eliyahu Ben Miriam, Moshe Ben Rachel,
Reuven Ben Shlomo, Amen.
Et aussi, on demande qu'Hachem envoie une réfoua chez les mains pour tous les malades d'Israël, et en particulier
Amen.
Pour Nathalie Kamara Bat Saada, Sibra Bat Felecha, Esther Bat Felecha, Hana Bat Aziza,
Amen.
Gabriel Eliezer Ben Evin Aziza, Rav Azimov, Rav Mordechai Eliyahu, Rav Obadiah Yosef,
Amen.
Rav Eliashiv,
Amen.
Shlomo Zalman, Yonatan, Ben Bora,
Amen.
Amen.